autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, pour mettre les états généraux de la bioéthique en question. Quels sont les enjeux de cette réflexion nationale, de cette consultation citoyenne avec débat public dans toute la France, organisée avant la révision des lois de bioéthique à l'automne prochain? Alors que les progrès galopants dans tous les domaines des sciences de la vie et de la santé, mais aussi du numérique, ne cessent de soulever de nouvelles questions éthiques, comment débattre sereinement des limites que nous voulons fixer à l'intervention de la science sur le vivant? Depuis les recherches sur l'embryon, les cellules souches, jusqu'à la fin de vie, le don d'organes, les tests génétiques, la procréation médicalement assistée, mais aussi l'essor des big data, le partage de nos données médicales, la santé connectée ou le développement de l'intelligence artificielle. Autant d'immenses, complexes et très sensibles questions sur lesquelles planchent nos invités, la juriste Karine Lefeuvre, spécialiste en droit et santé et en droit des plus vulnérables, et le chercheur Claude Kirchner, directeur de recherche émérite d'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique, nouveau sage, fraîchement nommé membre du Conseil consultatif national d'éthique, autour de la question « Quelle bioéthique à l'ère numérique ?» Bienvenue. Bonjour Karine Lefeuvre.
Bonjour Caroline.
Merci d'être venue de Rennes pour être en direct avec nous. Vous êtes juriste spécialisée dans les questions de droit et santé, mais aussi de droit et éthique, de la protection des personnes et notamment des plus vulnérables. Professeure et directrice adjointe du département des sciences humaines et sociales de l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique. Vous avez donc été nommée au CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, en raison de votre compétence et de votre intérêt pour les questions éthiques, mais aussi, Karine, parce que vous vous efforcez à tous les niveaux, locaux, régionaux, nationaux, d'imposer cette réflexion éthique de façon pratique, de la faire descendre, j'ai envie de dire, dans les hôpitaux, dans les EHPAD. C'est un des enjeux aussi pour vous, ces états généraux de la bioéthique, qu'on s'empare, nous tous, à tous les niveaux de ces questions.
C'est l'enjeu posé par la loi qui impose en fait tous les 7 ans de réviser les lois bioéthiques. Donc ces questions, c'est tous ces questionnements éthiques liés aux avancées de la recherche, les avancées médicales, liées à l'évolution des technologies. Et puis bien évidemment, puisque ça touche à des questions sociétales, le défi c'est d'aller questionner au plus près de la population. Et quand vous dites dans les différents niveaux imposer la réflexion éthique. Et je crois que la première chose peut-être à dire, c'est que la question éthique, la réflexion éthique ne peut pas s'imposer par essence, hein, puisque justement c'est la science du questionnement, donc il n'y a pas de réponse, c'est vraiment jalonner sa réflexion.
Il n'y a rien à imposer, mais il y a à partager en fait.
Ah oui, effectivement, c'est là où la loi impose quelque part les lois bioéthiques. Hein. Alors, quand on parle de la loi, on parle des lois bioéthiques. Elles imposent un processus un processus de révision tous les 7 ans. Donc, c'est pas anodin. Hein. C'est fixé dans les textes. Et puis, dans ce processus-là, il est prévu de mettre en œuvre des états généraux
pour faire participer la population française. Bonjour Claude Kirchner.
Bonjour.
Alors merci d'être venu depuis Bordeaux pour être en direct avec nous. Vous êtes directeur de recherche émérite à INRIA, donc l'Institut de recherche en informatique et automatique, dont vous avez aussi été le directeur scientifique. Vous avez été très tôt d'ailleurs sensibilisé aux questions éthiques soulevées par le développement de l'informatique et du numérique. Vous avez créé à INRIA un comité d'évaluation des risques légaux et éthiques, et c'est donc précisément pour cet intérêt, pour vos compétences sur ces questions éthiques liées à l'essor du numérique, que vous venez également d'être nommé nouveau membre, nouveau sage du CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui devra notamment débattre et soumettre ses propositions sur la réglementation de l'usage des données à grande échelle, des big data en fait en matière de santé. C'est une des nouvelles questions au fond de bioéthique soulevée par l'essor du numérique, mais ce n'est pas la seule. On a l'impression, Claude Kirchner, que le numérique ébranle et rejaillit au fond sur presque toutes les questions de bioéthique.
Alors de bioéthique, oui tout à fait, mais encore de façon plus large, sur l'ensemble de nos activités humaines et sociétales. Et donc on est dans une situation où le numérique imprègne complètement tous ces domaines, et du point de vue des sciences de la vie et de la santé, on a un impact extrêmement fort. Hein, que cet impact, que ce soit quand on va utiliser du numérique pour analyser, par exemple, des radios, ou pour gérer un scanner, ou pour pouvoir comprendre comment est-ce que des communautés peuvent partager des données de façon à mieux comprendre, dans le cas de maladies rares, comment est-ce qu'on peut intervenir, quel type de médicaments utiliser, comment est-ce qu'on peut partager ces données dans ce cadre-là, et aussi savoir les protéger, parce que les intérêts qui sont autour de ces données peuvent être considérables, puisque ça permet de savoir quel est l'état de santé des différentes personnes, quel est leur état de santé futur dans un certain nombre de situations, et par conséquent de comprendre si typiquement on va leur attribuer ou pas un prêt pour pouvoir acheter une maison ou une voiture.
En fonction de ces données de santé, nos vies sont numériques autour de la question quelle bioéthique justement à l'ère numérique. Je propose de commencer par un petit résumé des enjeux et du processus en cours avant la révision donc des lois de bioéthique à l'automne prochain, avec ces états généraux de la bioéthique, rappel des faits mixés par Apolline Verlon-Raison.
Les lois bioéthiques doivent être révisées tous les 5 ans.
Je vous souhaite la bienvenue à cette première grande conférence débat rencontre avec la société dans le cadre des états généraux de la bioéthique.
C'est un moment important de démocratie sanitaire, de dialogue entre les citoyens et puis les scientifiques pour réfléchir à un certain nombre de questions difficiles. Et ça va être quoi en 2018? Eh bien, c'est une série de grandes questions qui sont issues des avancées de la science, qui nous interpellent sur des sujets comme les neurosciences, l'intelligence artificielle, les big data, les dons d'organes, les relations entre la santé et l'environnement, la fin de vie. Finalement, et en particulier pour les plus jeunes, c'est un moment essentiel pour construire et savoir dans quelle France nous voulons vivre demain.
Vous voulez réagir à ce que l'on vient d'entendre, notamment en propos de Jean-François Delfraissy, président du comité consultatif national d'éthique, qui parle de démocratie sanitaire. Joli mot, Karine Lefeuvre. Démocratie sanitaire.
Alors là, c'est effectivement un de mes chevaux de bataille, si on peut dire. Alors moi, j'aime bien élargir à je pense que ça a du sens à la démocratie en santé de façon beaucoup plus large, même si effectivement, dans les lois de santé, on trouve le terme de démocratie sanitaire qui s'attache à l'expression des citoyens et puis des patients à l'hôpital, mais de façon beaucoup plus large, la démocratie en santé, c'est questionner tous les citoyens, qu'ils soient ou non usagers des services de santé, usagers potentiels, plus tard, on aura peut-être l'occasion pour soi ou pour ses proches sur ces questions-là. Donc c'est beaucoup plus large, en fait, et c'est une question effectivement cruciale.
Nous avons tous quelque chose à dire. Ces questions de bioéthique aujourd'hui, on doit s'en emparer. Elles nous concernent tous à tous les niveaux, Claude Kirchner.
Oui, absolument. Tout ce que ça soit à la fois le citoyen en bonne santé et qui a envie de le rester, que ça soit le patient qui va se retrouver dans une situation qu'il maîtrise, qui est, j'espère, dans certains cas plutôt nouvelle, c'est pas forcément récurrent, mais quand on se retrouve dans cette situation-là, on veut arriver à le comprendre et à le maîtriser, et dans un environnement qui est toujours de plus en plus numérique.
Il faut le comprendre, et c'est vraiment à la fois au niveau individuel, pour chacun d'entre nous, et aussi au niveau des grandes politiques de santé publique. Ces questions-là se posent à tous les niveaux, à tous les étages.
Absolument. Et donc je disais, le citoyen, le patient, le médecin, les institutions. D'ailleurs, aujourd'hui, l'hôpital est complètement transformé dans ces processus. Parce qu'on se retrouve avec des modus vivendi autour de la donnée, autour de comment est-ce qu'on va accompagner le patient au mieux avec nos outils numériques pour faire en sorte que il se retrouve en bonne santé et complètement réautonomisé dans sa situation précédente, si on peut dire.
Dans ces états généraux de la bioéthique, souvent, ce qu'on en retient, ce sont des grandes questions médiatisées. On a beaucoup parlé de PMA, de GPA, procréation médicalement assistée. Il y a aussi énormément d'autres questions éthiques, bioéthiques, qui sont soulevées aujourd'hui. Comment faire pour qu'on ne se focalise pas uniquement sur ce qui dérange, ou au contraire sur ce qui fait du buzz?
Lors de l'ouverture des états généraux de la bioéthique, Jean-François Delfraissy, donc le président du CCNE, avait appuyé dans la conférence de presse sur ce risque-là, ce qui dérange effectivement, ou en tout cas ce qui interpelle les populations à tous les niveaux, de la fin de vie, de la procréation, de l'assistance médicale à la procréation. Si on regarde effectivement les chiffres des personnes qui se sont manifestées, qui ont contribué sur le site web, il y a quand même 45% des contributions qui concernent en fait l'assistance médicale à la procréation et un quart à la fin de vie. Donc, tout le reste, c'est effectivement, et notamment le numérique, c'est, alors que, comme tu le disais très bien, Claude, ce sont des questions qui rejaillissent, c'est un enjeu qui rejaillit sur toutes les questions de société, ben, finalement, les gens n'arrivent pas peut-être à formaliser ou à faire le lien, puisque lorsqu'on regarde les chiffres, c'est quand même assez minime dans l'expression, en tout cas.
Dans l'expression de ces états généraux de la bioéthique, il y a aussi des débats organisés dans toute la France. Alors, comment les rendre fertiles, ces débats? On sait que les consultations en France ne sont pas toujours très simples. Ce sont souvent les plus extrêmes, les plus radicaux, ceux qui ont les positions les plus fortes qui se font entendre. À ce sujet, une nouvelle question pour vous, soulevée par la philosophe Nathalie Sartoulaju.
Ce que j'aimerais, c'est que ces débats pour les états généraux de la bioéthique donnent lieu à de vrais débats, justement. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, c'est des lobbies qui s'affrontent, et tous au nom de la dignité humaine. Et du coup, en vidant un peu ce concept de dignité humaine dont on pensait que ça serait, je dirais, un espèce de garde-fou pour nos sociétés. Or, aujourd'hui, on voit bien que ce soit ceux qui souhaitent promouvoir l'euthanasie ou ceux, au contraire, qui veulent surtout que cet interdit ne soit pas franchi, tous le font au nom de la dignité humaine. Donc j'aimerais qu'il y ait vraiment, plutôt que des lobbies comme ça qui s'affrontent, j'aimerais qu'il y ait de vrais débats, de vraies disputes. Des disputes au sens, vous savez, des disputatios d'autrefois, c'est-à-dire avec des argumentations, que ça soit pas simplement, comme on voit dans les pages des journaux, pour ou contre, mais qu'il y ait, que vraiment on puisse se déplacer, que les positions et les préjugés puissent un petit peu bouger d'un camp comme dans l'autre.
Comment faire, justement, pour faire bouger les préjugés, pour que ce soit de vraies disputes, de vraies conversations? Comment faire pour... tout le monde, finalement, emploie ce mot, effectivement, dignité humaine, d'un camp comme dans l'autre. Est-ce que vous avez des pistes, Karine Lefeuvre?
Peut-être qu'une des clés, et on l'a retrouvée dans les 250 événements, c'est la diversité. Les clés, c'est la diversité des outils. On a vu des cafés éthiques, on a vu des conférences débats, on a vu des conférences dans les universités, en ville, une conférence citoyenne. Alors effectivement, je peux témoigner de celle qui s'est déroulée en février à Rennes, que j'avais co-organisée avec une Brigitte Feuillet-Ligé de la faculté de droit de Rennes, et les REB, bien évidemment, l'espace de réflexion éthique de Bretagne. On voit bien qu'il y a effectivement sur cette matinée consacrée à l'assistance médicale à la procréation, à la fois des propos clivants et en même temps une écoute de part et d'autre, parce que notre crainte effectivement c'était une dispute mais pas dans le bon sens du terme. Et finalement il y a eu des retours en France de lieux où il y avait eu effectivement des débats un peu conflictuels, mais pas tant que ça, même beaucoup moins que ce qu'on aurait pu craindre. Donc ça, je pense que c'est en soi, c'est déjà assez constructif. Je pense qu'à partir du moment où on prend l'option, il y a eu plein d'options différentes, mais quand on prend l'option par exemple de faire intervenir deux ou trois experts sur le champ juridique, médical, philosophique, sur un temps très court, parce que ce n'est pas un débat d'experts, ça c'est vraiment
fondamental. Oui, pour donner les clés au public, c'est ça.
Pour éclairer, voilà, pour donner du sens, parce que c'est vraiment là justement le sens des choses, et puis ensuite de libérer la parole, si on peut dire, même si elle n'est pas emprisonnée en l'occurrence, c'est pas le but. Mais ça a été en tout cas une modalité, pas la seule, mais une modalité où on a pu de façon constructive échanger, et c'était intéressant.
Claude Kirchner, votre point de vue sur cette gageure de parvenir justement à faire des vrais débats et à ce qu'on puisse dire ce qu'on pense et donner du sens. connaissances, parce que c'est quand même ça le but du jeu.
Les débats auxquels j'ai assisté étaient globalement très constructifs. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé, c'est qu'à la fois, il y avait des personnes qui exposaient un peu des faits, d'une certaine façon, et puis d'autres qui donnaient plus des opinions, qui les donnaient de façon, en général, raisonnable. Et ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant, et ce qui est vraiment fondamental dans la loi, là, c'est de permettre de réfléchir ensemble. Et la réflexion, elle passe pas nécessairement par l'expression, d'accord, mais elle passe par j'écoute les autres, j'essaye de me positionner en termes d'opinion par rapport à ça, et en fait de façon à pouvoir ensuite, pour moi, mieux comprendre le système dans lequel je vis et pouvoir, par rapport à ça, y contribuer éventuellement ou au moins savoir
oui,
me situer.
Parce qu'au fond, tout va très vite là-dedans et dans vos comités d'éthique, vous vous rendez bien compte que les questions scientifiques, tout va extrêmement vite. C'est aussi un moyen de s'arrêter et de tenter de donner du sens ou le sens que l'on voudrait donner à ce qui nous arrive finalement.
Oui. Donner du sens, mais pour donner du sens, il faut déjà comprendre où est-ce qu'on en est. Et donc, je pense que l'un des intérêts des États généraux, c'était justement de faire une espèce de bilan où en sommes-nous relativement à ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe dans le monde.
Faire un petit débrief rapide. Où en sommes-nous par rapport à ces questions-là?
On en est à la situation où, de mon point de vue de scientifique, plutôt des sciences du numérique, une situation où l'aspect scientifique et technologique associé nous permettent d'avoir des solutions extrêmement novatrices par rapport aux problèmes de santé, aussi bien en amont qu'en aval, c'est-à-dire typiquement en prévention qu'en correction ensuite. Et ceci doit être évidemment accompagné d'une réflexion plus générale, plus éthique, d'une part, et d'autre part, de réflexion également sur l'intégrité. C'est-à-dire que typiquement, on se retrouve dans des situations où les chercheurs, ou les médecins, ou un certain nombre d'entités, ou un hôpital, se retrouvent avec des prérogatives qui sont bien plus forte qu'auparavant, parce que au lieu de pouvoir gérer, je dirais, des dossiers sur 50, 100, 1000 patients, on se retrouve à être capable de comprendre des populations qui peuvent atteindre typiquement la population de la France. Et c'est une chance qu'on a d'ailleurs en France d'avoir une population autour de tout ce qui est l'assurance maladie qui est extrêmement bien documentée et monitorée, qui nous permet d'avoir des données qui nous permettent d'aller plus loin. Donc l'ensemble de ces éléments-là, c'est ce qui nous permet de construire ce qu'on va faire après, mais donc de réaliser aujourd'hui où est-ce qu'on en est, typiquement sur les avancées scientifiques, bien sûr d'abord médicales, cliniques, mais aussi typiquement quand on utilise un robot pour opérer, alors que le chirurgien est à quelques mètres du patient et qu'il va opérer en chirurgie micro-invasive le patient qui est à entre 5 et 10 mètres de lui, on est dans une situation où il faut faire confiance et comprendre dans quelle situation on est. Et les états généraux nous permettent d'avancer, de faire le point sur ce type de technologie, sur ce type d'avancée et de les maîtriser mieux.
Karine Lefebvre.
Oui, et ce que je trouve vraiment passionnant, c'est la vitesse supérieure à laquelle on est passé dans le cadre de ces états généraux de la bioéthique là, parce qu'il faut vraiment en avoir conscience. C'est vrai qu'on peut se dire, tout est perfectible, il y a forcément des lacunes, il y a des endroits où ça s'est plus ou moins bien passé, etc. On pourrait faire mieux, mais il faut quand même rappeler que dans les états généraux précédents en 2009, il n'y avait que trois endroits en France, à Strasbourg, Marseille et Rennes, où des conférences débats avaient été organisées sur trois thèmes, simplement l'assistance médicale à procréation, la génomique, si mes souvenirs sont bons, et les dons d'organes à Strasbourg. On a explosé un petit peu tous les compteurs avec...
tous les sujets vous allez réfléchir.
Avec tous les sujets, et puis vraiment cette diversité, la création d'un comité citoyen, ces auditions en nombre beaucoup plus important qu'avant, ce site web, c'est quand même... Et puis ces fameux débats. Donc on peut faire mieux, mais on a déjà fait mieux dans le processus.
C'est très intéressant. D'éducation, de participation de tous les citoyens qui n'ont pas toujours la même éthique, justement, autour de la question quelle bioéthique à l'ère numérique. On s'interroge avec un bras de nostalgie à l'écoute de Guy Béard, la même éthique sur RFI.
Nous n'avons pas la même éthique, chacun tire de son côté. Et quand nous parlons politique, toi tu défends l'arithmétique, je m'accroche à la liberté. Nous n'avons pas la même éthique,
tu ne cherches qu'à t'opposer. Mais après les mots hystériques, voici nos bouches qui rappliquent et se ferment avec un baiser. Et là, que me dis-tu là? T'as fini de dire ça m'a. Eh oh, tout ça c'est des mots. T'as de beaux idéaux. Nous n'avons pas la même éthique. On lit chacun notre journal. Même pour les conseils pratiques, chaque canard a son optique. Quand on lit au lit, ça fait mal. Qui sera à gauche ou à droite? Voici la question déplacée. Notre couche est tellement étroite qu'après une lutte maladroite, nous nous retrouvons enlacés. Et là, que me dis-tu là? T'as fini de dire ça m'a eu. Si j'avais su, je ne t'aurais pas connu.
La même ou pas la même éthique, Guy Béard sur RFI. Nous sommes en compagnie de la juriste Karine Lefeuvre et du chercheur en informatique Claude Kirchner, nouveau membre du Comité consultatif national d'éthique. Autour de la question, quelle bioéthique à l'ère numérique, à l'ère génomique? Toutes les questions sont ouvertes. Écoutez voir celle que soulève le professeur Denis Duboul, le spécialiste de génétique et de génomique du développement à l'Université de Genève, qui vient d'être nommé professeur au Collège de France sur une nouvelle chaire génomique du développement. On l'écoute.
J'ai une question qui me tarabuse depuis quelques temps, en fait, c'est la suivante. Si c'est le cas de vrais jumeaux, si un des vrais jumeaux décide de se faire séquencer et de déposer son ADN, sa séquence d'ADN sur Internet, ce qui, selon la loi, il est libre de faire, si son vrai jumeau n'est pas d'accord avec cette démarche, que dit le droit actuel et quels sont les guidelines éthiques qui devraient être suivis?
Qu'il y a des pistes de réponse, parce que la question s'adresse à vous deux. Hein. Est-ce qu'il y a des pistes juridiques, Karine Lefeuvre? Est-ce que ce sont des questions qui se posent à vous, Claude Kirchner?
Oui, bien sûr, je pense que c'est une question tout à fait intéressante, mais que je commence par généraliser juste un tout petit peu. Mm-hmm. Et en fait, parce que le cas du jumeau parfait est intéressant, mais le cas de mon propre génome. Mon propre génome, si je le donne en public, je donne... mon génome personnel, mais il révèle quoi? Est-ce qu'il révèle mes ascendants et mes descendants? Évidemment.
Donc son propre génome, il appartient à qui? Il m'appartient à moi ou
c'est absolument
ou à
la
mes
question.
Parents ou à mes enfants?
Absolument, mm-hmm. c'est toute la question. Et donc on est dans une situation où c'est pas du tout anodin. Alors c'est pas anodin du point de vue des données personnelles, c'est-à-dire que quand je donne mon génome, je donne le génome de mes ascendants, mais je dirais presque surtout de mes descendants et de mes descendants pour longtemps, d'accord? Enfin, potentiellement. Et d'une part, et d'autre part, quand je fais ça, je participe aussi, je peux participer au fait que je permets aux scientifiques d'avancer en comprenant quelles sont les séquences génomiques qui font que je peux avoir telle ou telle maladie de façon plus facile.
Oui, on comprend bien l'intérêt général, l'intérêt scientifique, l'intérêt médical, mais ça soulève des questions complètement abyssales, parce que alors moi je suis pas professeur de génomique, donc je pensais pas à la question des jumeaux, mais effectivement, tout le monde peut faire séquencer son ADN, tout le monde peut le mettre sur Internet comme on veut, c'est un peu...
Alors, aujourd'hui, en France, mais ça, Karine est mieux placée que moi pour avoir les détails de la loi française, mais en France, aujourd'hui, sauf si on est malade et que pour des raisons thérapeutiques on fait séquencer son génome. Normalement, on ne peut pas faire séquencer son génome en France.
En France, Karine Lefeuve, mais par contre, on peut envoyer faire séquencer son génome n'importe où et le
absolument,
récupérer.
En particulier, ce soit par exemple aux États-Unis. Mmh. Et ensuite, on peut le mettre où on veut. D'accord, on peut le mettre dans un coffre-fort. On peut le mettre aussi sur Internet. Évidemment, Internet, c'est pas vraiment la forme de coffre-fort qu'on peut imaginer.
Ben non, pour protéger nos données génomiques.
Et dans ce cadre-là, je pense que ça va bien au-delà de mettre typiquement les photos de sa famille ou d'un groupe d'amis sur un réseau social. Là, on va mettre l'essence même de ce qui fait notre physiologie à disposition de tout le monde. C'est une vraie responsabilité. Et cette responsabilité-là, ce qui me semble être fondamental, c'est que ceux qui la prennent comprennent pourquoi ils prennent une telle responsabilité vis-à-vis de leurs ascendants et de leurs descendants, y compris d'eux-mêmes, bien entendu. Et je pense que ça serait souhaitable qu'en particulier au niveau éducatif, dans l'éducation qu'on reçoit, et l'éducation au sens de la vie et de la santé est plutôt bien faite, en particulier au lycée, on ait aussi ce type d'informations.
Et pour la juriste que vous êtes, Karine Lefebvre, ça ouvre aussi, enfin pour nous, ça ouvre un vrai gouffre, mais j'imagine que pour vous aussi.
Ça touche à plein de faire cet exemple-là, mais d'autres touchent à des droits fondamentaux, bien évidemment, hein, de ce que tu décrivais, Claude. Ça touche à l'indisponibilité du corps humain, à l'inaliénabilité, c'est-à-dire l'interdiction de vendre, à la liberté individuelle, au respect de la dignité. Puis ce jumeau, il n'est pas tout seul. Il y a aussi son autre jumeau, mais il y a aussi toute sa famille, c'est ce que tu disais. Donc c'est aussi ça a des conséquences sur, aussi en termes de valeurs humaines. Et puis... Si on revient aux droits des patients, il y a la question de l'information. Est-ce qu'il est bien informé? Est-ce qu'il a bien consenti? Dans quelles circonstances? Est-ce qu'il a donné son consentement libre et éclairé? C'est autant qu'il puisse le faire.
Et ça fait vraiment réviser toutes les questions. Enfin, il faut vraiment réviser toutes les questions de droit de la personne, de droit de la santé.
C'est comme la GPA, ça pose ça un petit peu les...
Comme la gestation pour autrui.
Au-delà des questions de société, de valeur, humaine que ça pose, bien évidemment il y a toute une série de libertés fondamentales qui sont impliquées dans cela.
D'où la question soulevée par un autre membre du Comité consultatif national d'éthique, le neuroscientifique Lionel Nakache, que vous connaissez bien, qui était récemment notre invité.
Alors je salue mes deux collègues du CCNE et la question peut-être que j'aimerais leur poser, parce que comme ils le savent, c'est une question que nous nous posons d'ailleurs entre nous, c'est est-ce que les nouvelles questions d'ordre éthique qui sont soulevés par, on va dire, au sens large, l'intelligence artificielle, le big data, le numérique, le rapport de l'être humain avec ces nouvelles architectures. Est-ce qu'ils pensent que le périmètre qui a l'air assez large pourrait être couvert par le CCNE lui-même, ou s'il faudrait réfléchir à d'autres instances supplémentaires pour arriver à adresser spécifiquement, avec des compétences comme les leurs et d'autres, d'arriver à adresser ces questions qui font appel aussi à une technicité, une expertise particulière.
Faudrait-il créer un comité d'éthique spécifique lié à toutes ces vastes questions, pour le faire large, autour du numérique, mais pas seulement, on l'a bien compris, hein, intelligence artificielle, neurosciences, questions juridiques, la question du corps humain.
Alors aujourd'hui, en termes de réflexion sur l'éthique du numérique, on a à la fois des comités qui sont dans les établissements, les universités, les établissements de recherche, INRIA, INRA, INSERM, etc., CNRS, et d'autre part, des commissions de réflexion plus généraux sur, non pas ce qui va se passer dans un établissement spécifique, mais sur des réflexions générales. Donc typiquement, le CCNE pour les sciences de la vie et de la santé, dans lequel nous siégeons avec Karine, mais par ailleurs, des instances de réflexion sur l'éthique de la recherche dans ces domaines-là. Et donc là, de ce point de vue-là, la CERNA, qui est la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en numérique, de l'Alliance Alliston, qui a
pour jusqu'où peut-on aller?
Qu'est-ce qu'on peut faire en recherche sur ce type de sujet?
Qu'est-ce que ça peut donner? Jusqu'où on veut bien aller?
Et donc là, on a besoin d'avoir ce type de réflexion, hein, parce que comme le dit Guy Béard, potentiellement, on a tous une éthique différente. En fait, c'est quelles sont, comment est-ce que les valeurs qui nous sont propres, on va les hiérarchiser. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Est-ce que c'est la vie privée? Est-ce que c'est la bonne santé? Est-ce que c'est le plaisir, etc.
Et quand vous dites, Claude Krichter, on a tous une éthique différente, au niveau individuel, au niveau collectif aussi, et j'imagine qu'entre pays, qu'entre continents, c'est encore différent. Karine Lefebvre, là aussi, on est dans un nombre de niveaux incroyables, de complexité incroyable, mais de questions qu'il faut qu'on soulève, qu'au moins on exprime.
Il suffit d'évoquer tous les débats autour de la fin de vie. Là, là encore, ce n'est pas le seul exemple, mais c'est un exemple qui vient bien sûr tout de suite à l'esprit, tant les législations, y compris les plus proches des nôtres, et là je parle de frontières, les pays limitrophes ont des
législations diverses. En Belgique, en Suisse, les législations sont totalement différentes sur la fin de vie.
Mais bien sûr, il y a la question des cultures, et ce qui est parfois
étonnant, c'est que des pays où l'influence de la religion est ancrée historiquement, ils ont parfois avancé à des rythmes différents du nôtre. Donc c'est vraiment très interrogatif et passionnant à étudier.
Absolument. Et ceci, encore une fois, je généralise un tout petit peu, bien sûr pour les sciences de la vie et de la santé, mais de façon plus générale, c'est-à-dire typiquement aussi pour le numérique. Mmh. Et alors pour continuer dans cette direction-là, je pense que ce qui est fondamental, en particulier aujourd'hui, où on se retrouve avec le numérique qui impacte de façon fondamentale la santé, c'est qu'on soit capable d'avoir une co-réflexion entre les entités qui travaillent sur l'éthique du numérique et celles qui travaillent sur l'éthique des sciences de la vie et de la santé. Mmh. Et donc, une possibilité, ça pourrait être que dans la même instance qui serait le CCNE,
donc le comité,
comité national d'éthique, d'accord, qui a la vertu d'exister, qui a des pratiques tout à fait remarquables et que je comprends maintenant de mieux en mieux en arrivant depuis le mois de janvier dans ce comité, c'est qu'on puisse typiquement avoir deux collèges, un collège sciences de la vie et de la santé et un collège numérique. Et
alors ces deux collèges dans la même instance pour pouvoir communiquer et travailler ensemble.
Dans la même organisation, et que dans cette organisation ensuite, évidemment, on pourrait avoir des groupes de travail communs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut regarder ce qui va se passer sur les données en santé, c'est bien d'avoir évidemment des gens qui sont compétents en sciences de la vie et de la santé, mais aussi des gens qui sont compétents en numérique, en droit, etc.
Sur la masse des données, autour de la question jusqu'où nous entraîneront ces états généraux de la bioéthique, on continue de s'interroger en écoutant Christine and the Queen, ou plutôt Chris, un nouveau single extrait de son dernier album. C'est votre choix, Karine Lefebvre, et ça s'appelle Dame, dis-moi.
Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ouvrent leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. Puis au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? T'aimes, dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te sera mes amours déçus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachure. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi.
Dame, dis-moi, Christine and the Queen, qui s'est rebaptisée Chris sur son dernier album, sorti prévu à l'automne au moment de la révision des lois de bioéthique. Tiens donc, qui nous occupe aujourd'hui autour de la question quelle bioéthique à l'ère numérique? Nous sommes en compagnie de Karine Lefebvre et de Claude Kirchner, tous deux membres du Comité consultatif national d'éthique, avec tout de suite une nouvelle question pour vous soulevée par Claire Hédon de RFI. Nos auditeurs de Priorité Santé connaissent bien Claire Hédon et ses engagements. Elle est aussi présidente d'ATD CarMonde et nommée donc à ce titre nouveau membre avec vous de ce Comité consultatif national d'éthique. Claire a plusieurs questions qui lui brûlent la langue, on l'écoute.
Tout d'abord, bonjour à mes deux collègues du Comité consultatif national d'éthique. Alors, j'aurais deux questions à vous poser, d'ailleurs même peut-être trois. D'abord, il y a de nombreuses personnes qui ont participé à ces états généraux de la bioéthique, ce qui est une bonne chose, mais on a l'impression que ce sont quand même un peu toujours les mêmes qui interviennent. Et du coup, comment faire pour que la société s'empare de ces questions d'éthique et qu'en plus, qu'on ne se limite pas aux questions de début et de fin de vie, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée et les questions d'euthanasie, mais à tout le reste de la vie où il y a plein de questions d'éthique qui se posent. Donc ça, c'était une première question que j'avais envie de vous poser. Comment faire? Et puis la deuxième, c'est toute la question des forcément moi qui me préoccupe en tant que présidente du mouvement ATD Carmonde en France, c'est comment faire que justement sur toutes ces questions d'éthique, on se préoccupe plus des personnes en situation de grande précarité et que aussi ces questions de lutte contre la pauvreté se posent en termes éthiques.
Est-ce que vous avez des pistes pour répondre à Claire, Karine Lefeuvre ?
De comment faire, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est d'essayer de trouver les outils, les leviers les plus adaptés à la diversité des populations. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de très jeunes ou de jeunes venir dans les conférences citoyennes. Pour autant, pour essayer d'équilibrer, il y a eu des conférences organisées par les universités, mais aussi dans le cadre des états généraux, pour aller s'emparer de ces questions-là. Peut-être qu'ils ont pu aussi s'exprimer dans le cadre du site web. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu la deuxième question. Comment permettre...
La question des plus vulnérables dont vous vous occupez particulièrement.
Oui, tout à fait. Et puis comment toucher ces personnes particulièrement précaires sur ces questions qui peuvent paraître
loin de leurs préoccupations, mais qui sont pourtant très proches.
Préoccupations essentielles, alors qu'en fait, ils sont, comme tout citoyen, complètement concernés. Je crois que ça, c'est un vrai défi de démocratie citoyenne. Comment toucher les plus vulnérables et comment faire remonter les problématiques de la vulnérabilité et de la précarité sur chacun des items. Il y en avait 9 qui étaient soumis à discussion et à contribution.
Est-ce qu'un bon choix bioéthique doit forcément être démocratique, puisque vous parlez de démocratie, Karine Lefeuvre?
Alors déjà, qu'est-ce qu'un bon choix?
Oui, c'est ça. C'est celui qui correspond.
Qu'est-ce qu'un bon choix
le mieux à cette consultation citoyenne ou un choix qui serait porteur de sens? Ce qui donnerait une vraie direction, c'est quoi un bon choix justement bioéthique sur des questions aussi énormes, essentielles, fondamentales, qui n'ont pas fini de se reposer.
Votre question, c'était un bon choix bioéthique est-il démocratique?
C'est bien ça. Est-ce qu'il doit forcément être
Moi, je trouve que c'est essentiel qu'il passe par cette interrogation démocratique, qui doit encore trouver, s'affiner, etc. Ça sera sans doute un des défis pour la suite. Comment continuer à impulser ce débat? Est-ce qu'on attend encore une fois que ça sera bouclé là
les prochaines révisions de la loi?
Moi, je trouve qu'on a un moment clé là vraiment de la démocratie. En santé, la démocratie plus générale, mais en santé ici, puisqu'on est sur les questions qui touchent la santé au sens large, pour essayer de réfléchir à inventer une nouvelle forme de questionnement peut-être permanent.
Sur lequel vous réfléchissez vous-même?
Et d'éducation à la santé,
D'éducation à la santé, d'éducation au questionnement.
Enfin, d'éducation au questionnement, c'est-à-dire qu'il faut commencer le plus jeune possible. Et là, je pense que Claude pourra rebondir sur les aspects numériques. À partir du moment où on sensibilise les citoyens dès le plus jeune âge, on sème les graines pour qu'ils se posent ces questions-là et qu'ils s'emparent justement de ces outils des états généraux. Et ils s'en sont quand même largement emparés quand on regarde les chiffres.
Sur le site web absolument et dans les réunions publiques également, Claude Kirchner.
Alors, un des gros intérêts de la loi de bioéthique qui a été votée auparavant, c'est qu'elle est autorévisable. C'est à ma connaissance, mais je ne suis pas expert en droit, une des seules lois qui a inscrit dans ses textes l'autorévision. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel.
En fonction des avancées, des changements technologiques.
En particulier dans un processus démocratique. C'est-à-dire que typiquement, aujourd'hui, nos sociétés évoluent complètement. Imaginons juste où est-ce qu'on en était au début des années 2000, où est-ce qu'on en était au début des années 90. On n'était pas du tout dans la même dynamique, pas du tout dans la même situation. Et par conséquent, c'est bien qu'on ait cette capacité. Et ça, ça donne du pouvoir aux citoyens, dont ensuite, l'une des difficultés et un des challenges intéressants, un des défis, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils soient capables de s'exprimer, qu'ils soient capables de comprendre. Et alors c'était ce que vous disiez là et ce que disait Karine, ça me faisait penser à une réflexion que j'ai eue à l'issue d'un débat, où en fait quelqu'un est venu me voir en me disant mais c'est incroyable, parce que je suis arrivé ici, j'avais vraiment des opinions, je pensais vraiment être droit dans mes bottes sur mes opinions, et j'en ressens sort, mais avec tout un tas d'idées nouvelles, de bouger dans ma tête. Et en fait, et ça c'était très fort, la personne était visiblement émue de se retrouver dans ces situations-là.
Et c'est peut-être le but finalement de cette réflexion sur la bioéthique, c'est de ne pas rester figé, de se dire tiens, je peux écouter l'autre, ça peut bouger, peut-être que dans 2-3 ans je dirai autre chose, ou dans 10 ans.
Absolument. Et donc cette situation de mouvement, je pense que c'est la base même d'être capable de donner la capacité à l'ensemble des citoyens français, européens, mondiaux, de réfléchir à comment est-ce qu'ils s'organisent autour typiquement du système de santé, avec la capacité d'autonomie qu'ils ont autour d'eux et de maîtrise de l'ensemble des sujets aussi bien médicaux que numériques, puisque c'est aujourd'hui un des points importants qui nous intéresse ici. C'est vraiment important d'être capable de justement leur donner la capacité à s'approprier le sujet, à découvrir, à apprendre. Et apprendre aujourd'hui, c'est relativement... c'est plutôt bien fait dans le système éducatif français pour tout ce qui concerne les sciences de la vie et de la santé, je le disais tout à l'heure. C'est malheureusement,
moins bien fait,
c'est malheureusement.
Hein.
Mais je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre en tout cas notre ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a bien analysé. Je pense également ministre de l'Éducation nationale. Mais aujourd'hui, il faut absolument que le numérique fasse partie depuis le plus jeune âge des cursus de tous les élèves, de la maternelle à l'enseignement supérieur.
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le questionnement autour du numérique, et entre autres, parmi d'autres, le questionnement éthique face à toutes ces formes.
Absolument. Mais pour comprendre le questionnement éthique, il faut qu'on comprenne quels sont les objets qui sont derrière. Sinon, on ne va pas comprendre, bon, une donnée, qu'est-ce que c'est? Je la mets où? Est-ce qu'elle va persister? Ben aujourd'hui, quand je mets une donnée sur le réseau, elle est là pour l'éternité, potentiellement. D'accord.
Justement, alors comprendre que les données sont là pour l'éternité, qui les utilise, qu'est-ce qu'on met nous, et jusqu'où vont nous entraîner ce monde numérique, ces big data, mais pas seulement, il est aussi question d'intelligence artificielle, de neurosciences. À ce sujet, je propose une nouvelle question soulevée par un chercheur, Damien Kerlioz, qui travaille au Centre de nanosciences et de nanotechnologie à l'Université Paris Sud. Il travaille, lui, sur des nanopuces artificielles et sensorielles qui s'inspirent du cerveau humain et de ses capacités sensorielles, donc comme la vue et le toucher. Écoutez sa question recueillie par Charlie Dupiot.
Je travaille sur les systèmes électroniques extrêmement basse consommation en énergie qui s'inspirent d'une certaine manière du fonctionnement du cerveau. Et une application qui est vraiment regardée par rapport à ce genre de choses, c'est des systèmes qui puissent non seulement s'inspirer du fonctionnement du cerveau, mais même directement interagir avec le cerveau. Par exemple, pour des implants auditifs ou même visuels. La signification de ces technologies nous interroge beaucoup. Le cerveau véritablement augmenté, on en est très très loin. On est quand même un peu dans la science-fiction. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait arriver et qui mérite qu'on y réfléchisse dès maintenant. La question que je voulais demander à vos invités, c'est s'ils ont déjà intégré dans leur réflexion le cerveau augmenté, les implants dans le cerveau, et comment ils aborderaient les questions éthiques que ces technologies peuvent poser. Et c'est vrai que c'est bien d'être prêt, peut-être de savoir qu'est-ce qui est désirable de faire et que peut-être quels sont les secteurs où on n'a pas envie de faire la recherche.
Claude Kirchner, vous avez, j'imagine, déjà réfléchi, hein, à l'INRIA, vous réfléchissez à ces questions, mais est-ce qu'on en est déjà là ?
Alors, d'abord, la question est très bien posée, hein, et je pense que effectivement, on en est déjà là. Alors, on en est déjà là à différents niveaux. D'abord, parce que le numérique transforme notre façon même de penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon qu'on a d'avancer au niveau du travail, au niveau des avancées personnelles, ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Et donc, on est dans une situation où le numérique transforme les processus cognitifs de façon fondamentale. À tel point qu'il y a des endroits, par exemple aux États-Unis, où on se pose la question, faut-il apprendre à écrire ? Parce que de toute façon, aujourd'hui, on va être capable de dicter, on va être capable d'interagir avec le reste du monde sans nécessairement avoir besoin d'écrire. Alors, c'est clairement extrême, mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, oui, on est déjà, et en particulier du point de vue du cerveau et du fonctionnement global de l'être humain, on est déjà transformé. Alors maintenant, il y a des transformations qui sont extrêmement positives et sur lesquelles, en particulier, on travaille chez INRIA ou dans d'autres laboratoires. laboratoire sur comment est-ce que, par exemple, après un AVC ou après un accident, on va être capable de redonner un certain nombre de capacités de motricité aux personnes. Donc, typiquement, en stimulant par des signaux électriques, mais contrôlés numériquement, leur marche, leur parole, etc.
Ça, c'est pour le meilleur de l'augmentation.
Ça, c'est pour le meilleur de l'augmentation.
Il y a aussi le pire.
Alors, après, comme le disait tout à l'heure Karine, les différences de culture nous amènent à être attentifs à comment est-ce qu'on va utiliser effectivement ces augmentations potentielles ou ces réparations. Alors, sur les réparations, bah, on peut réparer, mais on peut peut-être réparer encore mieux que ce que c'était avant. Donc, ça nous pose déjà des questions éthiques. Est-ce qu'on souhaite aller dans ce sens-là ou pas? Et puis, d'autre part, est-ce qu'on veut aussi aller carrément vers l'augmentation? Et donc là, les questions sont nombreuses, en particulier du côté éthique. Les interactions entre l'éthique des sciences de la vie et de la santé et des sciences du numérique sont nombreuses, parce qu'il y a une interaction très très forte entre les capacités technologiques issues des sciences dans les deux domaines et une confluence des choses qui fait que
ça va très vite et qu'il faut vraiment s'interroger ensemble là-dessus.
Voilà, et donc pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la génomique, est-ce que demain quand je vais vouloir avoir un enfant, est-ce que je vais le choisir avec les yeux bleus, avec tel ou tel, parce que je vais trier les gènes pour enlever un certain nombre de maladies potentielles, etc. Ça nous pose des questions éthique à tous les niveaux, au niveau du citoyen, au niveau des parents qui ont envie d'avoir des gamins qui soient en bonne santé, évidemment, mais aussi au niveau du système global de santé, que ce soit national ou international.
Ce sont des vraies questions sur lesquelles il faut s'interroger pour ne pas se préparer le pire des mondes possibles, hein, au lieu du meilleur des mondes possibles. Karine Lefebvre, vous avez l'impression que ça avance, justement, toutes ces réflexions? Vous avez l'impression que, à la fois que vous vous êtes entendu, que vous entendez les citoyens et ce qui se dégage de la société, vous avez l'impression que ça avance?
Oui, là pour le coup, tout le travail qui a été fait. Ensuite, ça rejoint un petit peu votre question tout à l'heure, qu'est-ce qu'un bon choix? On se garderait bien au CCNE
bien
de...
Oui, vous êtes là pour donner un avis. Hein,
Et d'abord, on est là pour faire le rapport de synthèse. Mmh. Et la grande vigilance, c'est de rester le plus objectif possible. Mmh. Hein, c'est sans doute la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Mais j'avais juste envie de conclure en disant que finalement, l'objectif de la révision des lois, c'est d'adapter le droit aux évolutions de la science. Et en même temps, par rapport à ce que tu disais, Claude, juste avant, c'est finalement tout ce qui est possible avec les évolutions technologiques et ce qui est souhaitable. Et ça, c'est l'intérêt des états généraux.
C'est justement ce qui est possible et ce que l'on veut voir advenir ou pas.
Quel monde voulons-nous pour demain? Voilà.
Et c'est à nous de décider.
C'est à chacun de s'en emparer, toutes les strates et les...
Grâce à vos avis, merci infiniment à tous les deux, nouveaux sages, Karine Lefebvre et Claude Kirchner, d'être venus en direct dans notre studio, partager toutes ces interrogations sur la bioéthique à l'heure numérique. Je vous rappelle donc les états généraux de la bioéthique. Pour s'informer, donner son avis, participer au débat, si vous êtes en France ou ailleurs, le lien est sur notre page. Et l'on suivra bien sûr sur RFI toutes ces discussions jusqu'aux révisions de lois de bioéthique. 2018, début 2019. Merci à vous, vous revenez quand vous voulez.
Merci.
Merci.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Au son de Patrice Weir, The Future in the Present. Et oui, le futur commence tout de suite sur RFI. Et sur Autour de la question, que vous pouvez podcaster ou réécouter sur le site de RFI, sur l'appli Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain en orbite, dans l'espace, pour nous demander à quoi ressemblent ou ressembleraient les exoplanètes. Y trouvera-t-on un jour d'autres formes de vie extraterrestres, extrasolaires? À demain pour une émission sidérale et sidérante avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation. Et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, portez-vous bien. Restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, une minute, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur la Radio Mondiale.